Bonsoir.
Ici Mélissa Brézé
et Elsa Chakis-Cassel
pour
La lumière à tous les étages.
On est là pour vous parler d'un spectacle qu'on a vu il y a 3-4 jours, donc ça fait un moment. Enfin, c'est pas un moment, ça fait pas si longtemps, mais on espère que ça reste assez frais dans notre tête. Qui est Je vous écoute, de la compagnie Réalité Augmentée, donc à savoir composée de Julien Lepreux et de Boraoui. Et on l'a vu au Montfort Théâtre à Paris.
Alors, le spectacle Je vous écoute a duré environ une heure. Et c'est un spectacle de danse, et on peut dire de plusieurs autres choses, mais...
Moi, je mettrais même un... Mais ils en parlent beaucoup, hein, de toute manière, sur les sites, quand on cherche le spectacle, mais de musique expérimentale aussi, mais principalement de danse, quand même. Disons du mix entre la danse et la musique expérimentale.
Les deux s'accompagnent. Je vous écoute, c'est un duo franco-coréen, né de la rencontre entre Boraoui, qui est une danseuse chorégraphe, et Julien Lepreux, qui est un créateur sonore. Le spectacle, on peut dire que c'est entre une cérémonie méditative, une performance dansée... et une installation sonore. Ce spectacle évolutif questionne notre capacité d'abstraction.
Et oui, ma foi, oui, oui, wow. ce n'est pas notre pitch, hein. Ça c'est le pitch du spectacle qu'on peut lire sur la plaquette du Montfort. Donc oui, on pourra se questionner là-dessus.
Voilà, ils nous disent qu'à l'heure où les technologies communicatives envahissent notre quotidien et révèlent plus que jamais nos différences et nos contradictions, comment retrouver le lien invisible qui nous relie les uns aux autres ? Ils précisent aussi que c'est un ballet d'objets dupliqués ou... haut-parleur, on pourrait peut-être juste dire haut-parleur, enfin bon, oui.
Des enceintes, quoi.
Ou des enceintes, mais bon. Donc il y a des câbles, micros, pieds de micro pour vous faire un petit peu l'idée de la mise en scène, mais ça on en reparlera plus tard. Tout ça impulsé par la danse chamanique de Boraoui et la musique progressive.
Eh bien, tu vois, ce pitch est exactement la raison pour laquelle je ne lis jamais. Qui se passe dans un spectacle avant d'aller voir le spectacle.
Bah tu vois, là moi quand je l'ai lu là maintenant, c'est pas que ça me donne pas envie d'y aller. Mais un peu quand même. Enfin, il y a trop de descriptions, trop de trucs qui font que tu te fais une image de la chose qui est peut-être pas celle, qu'on a vue, en fait.
Ah, mais clairement. En fait, moi, quand je lis ça, je ne retrouve pas ce que j'ai vu, l'autre soir. Ce qui m'amène donc à faire ma version du pitch. Si je n'avais pas lu ça, qu'est-ce que j'aurais dit de ce spectacle? Eh bien, je vous écoute, c'est un spectacle de danse et de musique expérimentale. Alors, en effet, il y a un lien quelque part avec une forme de méditation, mais qui se retrouve, à mon goût, au début et à la fin. Mais qui, pour moi, a plus parlé de se mettre dans un monde à part, plus que d'un spectacle chamanique. Pour moi, c'est plutôt un spectacle qui travaille énormément sur le lien avec le son, le lien avec la lumière et le lien entre les gens et leur rencontre, en fait. Tout l'aspect technologique, je ne l'ai pas vu personnellement. C'est pas parce qu'un spectacle prône, en tout cas prône pas forcément, mais parle du lien entre les gens, qu'il dénonce forcément le fait qu'aujourd'hui tout soit tout soit sur Internet. Donc voilà, moi je l'ai pas du tout ressenti comme quelque chose qui dénonce le fait qu'à l'ère où tout est une communication virtuelle. Je l'ai pas du tout ressenti comme ça, mais en tout cas j'ai senti une vraie rencontre entre deux mondes. Et pour moi, ce spectacle parle de ça.
Bah, tu vois, moi avant de lire ça, j'y ai même pas pensé une seule seconde qu'il y avait une histoire de technologie. Parce que ils le mettent pas tant que ça en avant, même dans la mise en scène, tu le ressens pas. Et là, je me pose une question, ça c'est le pitch du Montfort, c'est parce que eux leur ont donné, hein. C'est ce que le Montfort en a déduit.
Le Montfort ne déduit rien, Montfort a autre chose à foutre de ses journées. Le Montfort prend le dossier de presse et il fait copier-coller.
Est-ce que c'est vraiment ce que eux ils veulent dénoncer?
En tout cas, j'en sais, de mon vécu, quand un théâtre fait une plaquette, il n'écrit pas un théâtre, un festival, peu importe ce pourquoi c'est toujours écrit, ça vient du dossier de presse de la compagnie ou de l'artiste, et c'est jamais écrit par le lieu où c'est représenté. C'est ce qui permet d'avoir une ligne partout où le spectacle passe et qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise ce que nous on est en train de dire et quelqu'un d'autre qui dise que c'est sur les robots ou quoi que ce soit. Et surtout, ça permet de faire gagner énormément de temps, parce que ma foi, dans les théâtres, il y a pas, ceux qui sont à la communication n'ont pas le temps d'écrire des trucs pour chaque spectacle, surtout qu'ils n'ont pas forcément vu les spectacles. Mmh. Souvent, ils ne les ont pas vus d'ailleurs. La programmation n'est pas forcément faite par les mêmes personnes. Donc, voilà.
Mais j'ai vu aussi une belle rencontre entre deux univers différents, mais pas forcément un truc qui, bah, pareil que toi, dénonçait quelque chose, en fait. Je voyais pas de dénonciation. Peut-être aussi parce qu'elle est faite dans le calme et l'encens.
Et l'encens. Et l'odeur de l'encens dès qu'on rentre dans la salle.
Je comprends leur idée de rite chamanique ou des trucs comme ça. Maintenant, je me rappelle du début.
Oui, au début du spectacle, clairement, elle est en tailleur et il y a vraiment ce truc avec l'encens, etc. Mais encore une fois, pour moi, ça m'a plus mise dans une bulle. Pour moi, c'était plus une préparation de la danseuse et du musicien qui nous emmène dans leur monde. Plus que, oh, regardez, on va se détendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois, je vois. Donc, ils ont créé une compagnie qui s'appelle Réalité Amplifiée, donc R.A, pour faire plus simple.
La compagnie RA.
Moi, je trouve que c'est très drôle de se faire appeler la compagnie RA, qui a été fondée en 2019, donc par Boraoui et Julien Lepreux, donc ils sont aussi les deux interprètes de ce spectacle. Je me demande d'ailleurs s'ils ont avec eux des ingés son, des ingés lumière, ou ils sont vraiment peut-être que tous les deux, mais une compagnie à deux.
Bah si, il y a forcément quelqu'un pour les lumières.
Ouais, c'est ce que je me demandais, parce que je l'ai vu tritouiller son petit matos au moment où il y avait des changements de lumière, et je me suis dit, oh, c'est lui qui l'a fait.
Non, c'était des trucs de musique.
Ouais.
Ouais, c'était clairement des trucs de musique. Donc son, non, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit.
Je pense qu'il y a tout seul.
Lumière, je pense, oui.
Ouais, donc lumière, et je pense qu'ils ont des ingés lumière. C'est une compagnie, et donc d'ailleurs, ils le disent un petit peu eux-mêmes, en rendant poreuses les frontières entre différentes disciplines artistiques et en favorisant l'échange entre des artistes éloignés, aussi bien culturellement qu'artistiquement. Et leur duo, c'est à peu près ça, en fait.
Et oui. Et pourquoi est-ce qu'ils sont éloignés culturellement, Elsa, je te le demande ?
Eh bien, parce que Julien Lepreux est un...
Français,
créateur sonore, mais bon, ça c'est pour sa discipline artistique. Et Boraoui est une danseuse et chorégraphe coréenne.
Tout à fait, sud-coréenne. Au niveau des tarifs, bon, à mon avis, ça dépend des salles, mais pour ce qui est du Montfort, on a payé 10 euros chacune. Mmh. En tarif étudiant, et alors sachant que, personnellement, j'ai cru comprendre que, mais apparemment pas, enfin c'est un petit peu confus, mais j'ai cru comprendre que sur le site du Montfort, les tarifs réduits n'étaient disponibles qu'à partir du moment où on prenait 4 places d'un coup. Mmh. Et vu que nous, on va voir beaucoup de spectacles, on a toutes les deux pris 4 places d'un coup, et donc la place était à 10 euros. En tout cas, ce n'est pas très clair, mais voilà. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur le site, il est affiché que les tarifs vont de 5 à 25 euros.
Mais je crois que pour les étudiants, le max que tu puisses payer, c'est 10 ou 12.
Il y a plein de tarifs réduits différents, je pense que c'est assez avantageux.
Ceci est une alerte spoiler pour la suite du spectacle. Retrouvez le génie de ce réveil matinal dans les notes du podcast. Get the fuck out of bed, bitch, go.
Alors, Elsa, est-ce que tu as aimé ce spectacle ?
Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Et bon, je le dis directement, il se trouve que toi et moi, on était au spectacle, mais j'avais un ami aussi, qui n'a rien à voir avec le monde du spectacle, qui était avec nous. Axel, salut. Mais du coup, oui, moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle. Donc, on parlera un petit peu de son avis à lui.
Oui, qui m'a fait très intéressant.
Qui m'a fait très intéressant. Pour le coup, moi, dans les grandes lignes, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Mélissa.
Moi, j'ai sûr qu'elle fait. Alors déjà, c'était une heure, donc même au pire, c'est pas bien. Et ben, c'est pas grave. Mais c'est même pas une question de temps, hein, parce que j'ai déjà vu des spectacles de 3h30 où je me suis pas fait chier du tout. Donc vraiment, c'est pas spécialement une question de temps, sauf quand il ne se passe rien. Bon, là, dans tous les cas, il se passe des choses.
Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, dont on n'a pas parlé ensemble, c'est le fait qu'il y a un énorme silence au début.
Ah bah justement, j'avais envie d'en parler.
Ouais, très
bien. Eh bien oui, on commence sur un grand silence. Alors bon, comme on l'a dit plus tôt, déjà on commence sur le rituel chamanique apparemment, hein, vu que c'est un rituel chamanique. En tout cas, sur une cérémonie des encens. Par contre, je pense que dans 10 ans, ils ont un cancer tous les deux, s'ils font ça tous les soirs.
Ah oui, c'est vraiment celui-ci. Parce qu'en plus, ils n'en crament pas un, ils n'en crament pas deux.
Non, ouais, il y en avait un sur chaque marche.
Je crois qu'il y en avait 6.
Des gradins, 6 de chaque côté.
Ah non. 3 de chaque côté.
Non, ils en avaient 4.
Ah bon ?
4 de chaque côté.
Donc ça fait 8.
Plus ceux qui sont vers eux.
9, 10,
en gros, 11. On est rentré dans la salle était pleine de fumée d'encens et ça sentait l'encens à plein nez.
Mais c'est un cancer assuré pour les prochaines
années. Oui. Oui, tout à fait. Eux, je pense qu'ils ont du souci à se faire.
mais bon, ça dure une heure. Hein, donc, je pense qu'après, ils sortent, ils font...
Bonjour, frère.
J'ai l'habitude de cette odeur, mais là, elle était vraiment très forte quand tu rentres. Vraiment, oui. Je pense qu'il
les allume. Ah, ça prenait bien le nez, hein, malgré le masque.
Malgré le masque. Et là, tu peux pas enlever ton masque pour respirer, puisque bah, quand t'es dedans, tu respires pas. Mais ils étaient, comme l'a si bien dit Axel, les encens étaient posés sur des mini-monts Fuji.
Oui, c'est vrai qu'il y avait des petits monts de cendres sur lesquels ils étaient plantés.
Je me suis demandé si c'était des cendres des anciens, mais en fait, vu que ça n'avait pas la même couleur...
Alors, finis cette phrase, parce que les cendres des anciens, on ne dirait pas que tu parles d'encens.
Donc, les cendres des anciens encens. Enfin, voilà, ils avaient fait des petits châteaux de sable, hein. Je sais pas comment on peut dire ça, mais...
Oui, bah,
des volcans. Des volcans dans lesquels...
Des volcans, finalement, c'était la bonne définition.
Tu vois, je pense que c'est un spectacle qui est pas adapté aux scolaires. Le spectacle en soi, oui, mais dans ces cas-là, on fait une option, on enlève les monts Fuji et on met des pots.
Mais je trouve que les gens ont tendance à bien se discipliner dans une salle de spectacle, généralement, ils touchent à rien. Des fois, moi, je trouve ça un peu frustrant, parce que je trouve ça trop intéressant, même si dangereux, mais je trouve ça trop intéressant l'imprévu, et genre le fait que, en tant que spectateur, on est tous, genre, dans nos trucs sociétals, on est assis, on regarde, on rigole quand il faut rigoler, on pleure quand il faut pleurer, on applaudit à la fin, mais on répond pas quand le comédien nous pose une question, enfin voilà, il n'y a pas de vrai échange avec le public, alors qu'en vrai, le public pourrait prendre des libertés. Parce que ça reste un espace de jeu, en fait, ça reste un espace artistique, et donc ça rentre dans toute démarche artistique, l'imprévu et le... Bah, comment tu réagis quand d'un coup, t'as un spectateur qui se lève, qui vient sur scène et qui répond à ta question.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve qu'on est trop... Mais enfin voilà, c'est normal, c'est la société. Hein, mais...
Là, après, il y avait un truc, la discipline qu'ils ont instaurée dès le début, elle est aussi là parce que les deux sont sur scène dès le début. Tu rentres, ils sont déjà là.
Ils sont déjà là en silence.
En silence, ouais. Et du coup, les gens s'installent, ça parlote un peu, ça fait des blagues, ça fait oh, des monts Fuji, nanana, oh, des gens, pour... elle fait la prière, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe. Lui, il ne bouge pas vraiment, hein. Il est
derrière ses instruments.
Il est derrière ses instruments, j'ai l'impression qu'il règle encore 2-3 trucs. Donc, ils sont chacun dans leur bulle, t'as l'impression qu'ils se concentrent chacun pour commencer leur spectacle.
Exactement.
Et au bout d'un moment, quand toute la salle est installée, bon, bah, tu sais plus quoi faire, tout le monde a fait sa petite blague. Et une fois que la petite blague est faite, bah t'as un grand silence.
Et oui, en fait c'est très étonnant parce qu'il y a vraiment ce truc où la lumière reste et tout le monde se met d'accord, étonnamment, d'un point de vue énergie du public, tout le monde se met d'accord pour s'arrêter de parler au même moment et regarder la scène alors que rien n'a changé. La lumière n'a pas changé, la danseuse et le... Enfin on va dire les comédiens, désolée pour son raccourci. Les comédiens n'ont pas bougé et juste d'un coup... Le public s'arrête de parler et observe en silence ce qui se passe sur scène. Et je trouve ça magique comme moment, genre le fait que tout le monde s'arrête d'un coup par on ne sait quelle force qui vient d'arriver au milieu de...
Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant ce qui se passe en fait, parce que il y a comme un respect pour ce qu'elle fait et pour ce qu'il fait. Moi, je trouve ça très respectueux de la part du public d'arrêter de parler quand on voit qu'elle est très concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Mmh. C'est-à-dire, elle est assise en tailleur et elle ferme les yeux et puis tout d'un coup, elle bouge. Et la lumière change un petit peu, et là on se dit d'accord, ça va commencer. Et même on reste dans le silence quand ils vont chercher l'encens.
Oui.
On est vraiment comme si on était en train d'assister à une grande cérémonie et qu'on se dit bon bah c'est quelque chose de très important et on peut pas déranger ça parce que pour ces personnes-là ça a une très grande importance.
Oui oui. Après pour moi il y a aussi beaucoup de la convention théâtrale.
Oui,
hein, vraiment.
Aussi oui clairement.
C'est vraiment bon bah ils ont commencé à bouger donc on attend, on dit rien et ça veut dire que le spectacle a commencé. Et pour moi il y a aussi beaucoup de ça. Mais c'est vrai que c'est très beau du coup tout ce moment hyper silencieux où ils montent les marches des gradins pour prendre chaque petite tige d'encens et la mettre dans leur petit pot et tout en silence et retourner à leur place et se mettre à danser silencieusement aussi. Elle a commencé, non?
Oui.
Je sais plus.
Au centre de la scène, il y a une espèce de grand carré rectangle, je sais pas si on peut dire, blanc, qui est leur scène à eux. Ils commencent chacun de son côté avec son rite à lui. Donc lui, il a toutes ses machines, elle a tous ses trucs un petit peu plus... Bah, tout l'ensemble hein, qu'elle vient récupérer. Ouais.
Dès le début, ils sont séparés et ils vont finir par se rassembler pendant le spectacle, quoi.
Ils se rassemblent de manière super intéressante, c'est-à-dire qu'au début, lui, donc il y a les... Oui, ça, on n'en a pas parlé, mais les enceintes
sont au centre. Ah oui, l'installation des enceintes.
Ouais.
Ah, oui, c'est vrai.
Elles sont toutes en centre, posées de manière cubique.
Oui, c'est vrai. Ouais. On dirait pas des enceintes sur le coup, on se demande ce que c'est. On se dit, c'est quoi cette espèce de mini-mur de briques au milieu, là?
Il y a des câbles, on comprend pas. Et surtout que la lumière au début te permet pas de voir, parce que au centre, c'est pas éclairé. Tu vois qu'il y a un truc, mais tu sais pas quoi. Et quand ils commencent à l'enlever, tu vois, il y a une enceinte, ok. Ah, ok, il y en a une deuxième. Et ils les placent à des endroits extrêmement précis, avec beaucoup de douceur.
Ouais.
tellement de douceur.
Il prend tellement son temps pour poser chaque enceinte. Non, c'est ouf à quel point tu te dis, mais est-ce qu'il est, il fait exprès de mettre le fil comme ça, mais en même temps, on dirait qu'il y a un peu de random aussi, mais en même temps, des fois, il le replace. Enfin, ça...
T'as l'impression que tout est très calculé. Mais j'ai l'impression qu'on peut avoir l'impression à cause de ça, enfin, à cause, grâce à sa danse à elle ou grâce à certaines choses qu'il fait de lui, que c'est pas trop calculé. Mais en réalité, je pense que tout est fait au millimètre, rien que pour les lumières, notamment, où c'est très bien géré.
Et moi, il y a un autre moment qui m'a marqué, c'est qu'il y a un moment où elle danse au milieu de ces fils-là avec les yeux fermés et qu'il n'y a pas un seul moment où elle pose son pied sur un fil.
Ouais.
Pas un seul. Et j'ai regardé ses pieds, hein, j'étais là, mais elle va se faire mal.
Ouais.
Elle va marcher sur un fil, elle va être aïe. Je prends sur moi.
Mais c'est vrai
que une seule fois, en fait.
J'avais pas vu qu'elle avait les yeux fermés.
À un moment, ouais.
Okay.
Elle ferme les yeux et elle se met à danser et à tourner et elle ne touche pas une seule fois les fils.
C'est vrai. Et elle avait un éventail, mais bon, ça on en parlera plus tard, de cet éventail qui m'a perturbée.
Oui, moi aussi, qui n'a servi à rien finalement.
Je sais pas s'il a servi à rien, mais culturellement parlant, il a forcément un écho, mais...
Mais moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que, du coup, si c'est un rapport culturel, j'ai pas senti la présence d'une particulière haute culture dans tout ce spectacle. Bah, si, sauf quand elle parle coréen, évidemment.
Sa tenue aussi, je trouve qu'elle fait écho.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Elle a un truc beaucoup plus traditionnel, mais cette tradition, elle est présente, et au bout d'un moment, moi, je l'ai oubliée.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que elle représente vraiment la tradition dans tout son costume, et lui, il est vraiment habillé en mode aujourd'hui, quoi, genre il a un bomber, en plus à un moment il le retourne, ça devient un bomber holographique, vraiment ma passion, je le veux le même. Au début il est noir, et après il le retourne, il devient holographique, c'est la magie, on adore. Vraiment c'est le seul moment du spectacle où j'ai parlé, je me suis tournée vers Elsa, je lui ai dit je le veux. Et c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être aussi la rencontre entre le passé et le présent, et ce que le passé nous lègue, je sais pas.
Ouais. Je sais pas si c'est légué ou si c'est... Parce qu'à un moment, il y a une communion des deux. Enfin, même tout le
souvent,
temps, en fait. Très souvent, ils ont créé quelque chose de beau et l'un sans l'autre n'aurait pas d'intérêt. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de les entendre parler, les deux.
Oui.
Enfin, parler et chanter, parce que j'imaginais pas qu'il avait une voix comme ça.
Alors, peut-être qu'on va pouvoir mettre un extrait de cette chanson qui arrive à la fin, qui est vraiment trop bien, qui fait partie de la bande-annonce, en fait. C'est pour ça que...
Oh.
Je te laisse descendre, je te laisse.
Oh putain!
Oui?
Ça vient de me mind blow. J'ai les larmes aux yeux.
Ça, c'est très bizarre.
Oui. Pardon. C'est l'émotion qui est sortie d'un coup.
Oui? Qui a?
En fait, je te laisse descendre. Je te laisse descendre sous terre. Je te laisse descendre.
Oh ouais!
Oh
donc en fait, ma blague, elle était pas super.
Je sais pas pourquoi ça me fait pleurer, c'est trop bizarre.
J'ai un humour génial.
C'est hyper étrange. J'ai les larmes aux yeux, c'est très bizarre.
Non, mais c'est vrai.
Mais
c'est...
alors, vraiment, je. Oh là. En fait, c'est juste qu'en réentendant cette musique-là, ça m'a rappelé que sur le coup, quand il y a eu ce moment dans le spectacle, je me suis vraiment. J'ai eu les larmes aux yeux et je me suis mise à pleurer parce que c'était un moment qui était très beau et à la fois très triste. Mais vraiment, je te laisse descendre, vraiment, moi, je l'entendais vraiment, genre, je te laisse descendre sous terre, genre, je te laisse partir loin de moi et adieu, t'es en train de crever.
Ouais.
En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai entendu sur le moment, c'est peut-être pas ce qu'ils ont voulu dire. Et là, le fait de l'entendre et en fait, le rapport avec les cendres du début et je te laisse descendre, je sais pas, ça me chavire.
Et là, d'un coup, il y a la tradition, le passé, le présent, le truc.
Il y a tout.
La concordance. Waouh, mais en fait, ils sont loin d'être bêtes.
Et ben, en fait, tu vois, alors ça aussi, c'est un sujet. Tu sais, quand dans l'épisode précédent, on disait, c'est joli, il y a plein de choses, mais il y a tellement d'idées qu'on sait plus ce qu'ils veulent dire. Et à mon avis, ils savent même pas ce qu'eux-mêmes, ils veulent dire, vu qu'ils veulent dire tellement de trucs.
Ouais, je m'en souviens.
Et ben là, pendant le spectacle, là, ce que je ressens, c'est que eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent dire. Ils savent de A à Z ce qu'ils veulent raconter. Et tu le reçois ou tu le reçois pas, mais du coup, ça fait que tu reçois forcément un truc, même si c'est pas ce qu'ils ont voulu dire.
Oui.
Et du coup, moi, j'ai tout compris au spectacle. Genre, sans chercher à comprendre, j'ai tout reçu. Genre, tout m'a touché, tout m'a dit... Enfin, sans que ce soit conscient, mais là, ça fait écho à un truc qui te touche. Regarde par là. Et c'est sûrement pas ce qu'ils ont voulu raconter, mais vu que eux, ils étaient clairs dans ce qu'ils voulaient raconter pour eux, et ben du coup, ça marche hyper bien avec le public.
Ouais.
Voilà, c'est tout pour moi.
Non, mais clairement, hein, c'est... je suis assez d'accord avec ça. Et puis bon, il n'y avait pas mille idées de chaque côté. Enfin, tout était très bien réparti sans qu'on s'en rende compte.
Oui.
C'est ce que je veux dire. Et après, tu choisis ce que tu as envie de comprendre. J'ai l'impression aussi.
Oui, mais carrément, ouais. Carrément.
Et moi, j'ai compris aussi des trucs un petit peu tristounes, mais...
Mais
du coup, ouais, il y avait quelque chose de super intéressant. Bon, je peux parler vite de la vie d'Axel, il a trouvé ça très beau, mais c'est pas quelqu'un du milieu du spectacle. Je dis pas que ce soit obligatoire hein, d'être du milieu du spectacle. Lui, il a beaucoup aimé aussi. Il a beaucoup aimé l'ambiance.
Oui.
Ouais, dans les grandes lignes. Au début, il me l'a dit, il pensait pas trop aimer, je crois. Enfin, voilà, quand tu rentres...
Ça m'étonne pas. Hein.
Et même moi, j'avais vendu le truc en lui disant, c'est de la danse. Il y a des micros, des fils, et il a fait « Ok ». Donc voilà, donc j'avais dit « Bon, voilà, en gros, dans les grandes lignes et, ». Et finalement, il a beaucoup aimé, mais l'ambiance aussi que ça en a dégagé. Si je me trompe pas, Axel, frappe-moi si je me trompe. Non.
Ne la frappe pas.
Déjà
je viens te frapper.
J'en ai déjà dit ça la dernière fois.
Oui. Arrêtez de frapper Elsa, enfin.
Non, voilà, il était, je crois qu'il avait compris dans les grandes lignes. Je sais pas, on n'en a pas trop discuté non plus ensemble, mais j'ai plus l'impression qu'il a aimé l'ambiance en soi.
D'accord.
Le travail qu'il y avait techniquement derrière. Je sais que la danse, ça l'a quand même moins touché.
Oui.
Que tout ce qu'il y avait au niveau technique, notamment.
Mais je pense que c'est une habitude aussi, ouais. Hein. Enfin, c'est à force de voir des spectacles et d'être là-dedans que t'apprécies de plus en plus tout ce que tu peux recevoir de ce truc-là. Parce que la première fois que tu vois un spectacle, tu te dis pas « Oh oui, alors là, il a voulu parler de la société et de tout ce que ça dénonce et du fait que la droite est vraiment trop présente. Non, enfin, la première fois, tu te dis juste « Ouais, super, il est en train de danser. Oh, c'est technique. Oh, dis donc, elle tend bien ses pointes, elle a pas les pieds en fer à repasser. » Et plus tu vas voir des spectacles et plus tu commences à avoir un avis... critique, en fait. Mais comme dans tout, hein, plus tu fais un truc et plus tu commences à avoir un avis critique sur les choses. Et bah voilà.
Ouais. Tu vois, même moi, là, à l'heure actuelle, en danse, j'ai beaucoup moins... Bon, même si ma mère m'a emmené voir beaucoup de spectacles de danse et tout à une certaine époque de ma vie, que j'ai continué à en voir, mais que maintenant, je suis beaucoup plus concentrée sur le théâtre. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, c'est plein de disciplines qui se mélangent et tu retrouveras toujours un peu de danse quelque part ou toujours un peu... Bon, en soi, ça devient que des trucs qui se mélangent, en grande partie. Et puis même, quand tu étudies le théâtre... Il y aura forcément un lien, c'est pas des choses qui peuvent être trop dissociées non plus. Pour te dire dissociable à la fac de Strasbourg. Mon premier semestre à la fac de Strasbourg, au lieu de faire chacun sa discipline, enfin genre il y avait danse, théâtre et cinéma, on faisait les trois.
Ah oui, nous aussi.
Voilà.
Premier semestre de première année.
Ouais, mais il y a plein de facs où ils font pas ça.
Ah ouais.
Mais du coup, pour nous permettre au cas où de nous réorienter. Et je trouve que c'est déjà c'est une technique un peu de pauvre, mais parce qu'il y avait pas beaucoup de monde.
Moi je trouve ça hyper intelligent.
Mais c'était très intelligent. Mais c'était giga intéressant. Et là tu te rends compte qu'en fait, il y a des profs qui pourraient dans leur cours parler des trois. Enfin, même ils en parlent des trois.
Bah c'est hyper lié. Enfin, de toute manière, c'est encore une fois, ça fait partie du milieu du spectacle vivant, quoi.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, bah c'est la même chose.
Par contre, le théâtre du Montfort, il est très bien, mais il y a un souci, on est très mal assis.
Ah oh, putain, les sièges, sa mère. Parce que vraiment, j'ai fait. Alors déjà, bon, il faut savoir que de base, perso, moi, quand je suis au cinéma ou au théâtre, je bouge dans tous les sens pendant tout le spectacle. Ça veut pas dire que je me fais chier, juste je suis jamais. Enfin voilà, je change de position. Mais là. C'était pas que parce que mon corps avait besoin de changer de position, c'était parce que j'étais extrêmement mal assise, et encore, Elsa, si présente,
oh putain, c'était horrible.
Avait une barre dans le dos.
J'ai aussi retrouvé, je pense qu'on peut le dire comme ça, le cul entre deux chaises, je dirais même
entre
mieux.
Deux bancs.
Le cul entre deux bancs.
Le cul entre deux bancs, oui.
Et il se trouve que c'était la salle de la cabane, donc il faut savoir que dans le théâtre du Montfort, pour ceux qui sont déjà allés et pour ceux qui n'y sont pas encore allés, chez toi, t'es jamais allé dans le grand théâtre du Montfort.
Nope.
Dans le grand théâtre, les sièges sont très confortables, c'est vraiment très cool. Et là, la cabane, c'est la première fois que j'y suis allée. Et la cabane, bon, bah, t'as un petit peu l'impression. Bah, c'est une cabane, en fait. Hein. Et c'est là que t'es content que ça dure qu'une heure.
Oui, exactement.
Donc,
mais sinon, à part de digresser, comme tu as vu tout à l'heure, tu n'as pas fini par dire ce qu'a pensé Axel jusqu'au bout.
Oui, mince. Alors oui, alors peut-être que Axel a vanné et que j'ai pas compris la vanne, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que je pense que des gens l'ont ressenti comme ça. Qui possiblement n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Parce que Axel, pour le coup, c'est son cas. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Il a dit un truc qui m'a fait entre un peu rire et pleurer.
rire jaune, on va dire.
En gros, il avait dit un truc comme quoi. C'est vrai que nos deux interprètes sont donc danseuses et.
Musiciens,
ouais. Mmh. Je sais pas si c'était son ressenti, mais en gros, il m'avait dit cette phrase de. Le mec, il aurait voulu devenir DJ et il a pas réussi. Donc du coup, il a fait ça. Et pour la danseuse, c'était à peu près le même discours. Et j'étais un peu en mode, bah... En fait, c'est comme... Bon, pour le coup, avec Mélissa, on est au cours Florent. Et moi, quand je rentre, grand bien leur fasse, hein, aux paysans de là où j'habite, cette phrase, les paysans, non, aux gens qui habitent à la campagne, la plèbe, de là d'où je viens, quand je leur dis que je suis au cours Florent, ils me disent « Ah ouais, c'est pour que tu deviennes une actrice connue et tout. Mmh. » Et en fait, l'artistique, j'ai l'impression, aux yeux des gens qui ne sont pas dans ce milieu, c'est quelque chose pour devenir connu. Et je pense que non, en fait, parce que moi, par exemple, c'est pas mon but de devenir Marion Cotillard. Et comme pour beaucoup de musiciens, j'ai l'impression que c'est pas leur but de devenir David Guetta. Pire exemple.
Non, mais je vais faire de l'autopromo, je crois que j'en ai déjà fait dans l'épisode précédent, mais tout se lit. Hein. Mais c'est quelque chose dont on parle avec Alindy Rumpfel dans mon dernier épisode de Donne ta patte, à savoir l'épisode 12 de mon podcast Donne ta patte, allez l'écouter, merci. Disponible sur toutes les plateformes de podcast, également, comme celui-ci.
Bon, magnifique, classe, bien.
Et du coup, on parle de ça, de la notoriété. Et du coup, elle dit que elle a l'impression que c'est quelque chose que tout le monde recherche. Et moi, je suis pas spécialement d'accord. Personnellement, je suis pas contre une petite notoriété. Par contre, je serais vraiment pas fan de pas pouvoir sortir de chez moi.
Britney Spears.
Ouais, non, vraiment une grande notoriété, c'est hormis le fait que t'es tout le temps des projets, ce qui est le seul vraiment le seul vrai avantage à la notoriété, c'est que du coup, les gens viennent vers toi pour te dire, hey, tu veux jouer dans mon film? Et tu dis oui. Et voilà. Ou tu dis non si le projet te plaît pas, mais t'as le choix. Ça, c'est une vraie chance. Mais au-delà de ça, la notoriété, c'est quand même une rétare, moi, j'ai l'impression.
Ouais, j'ai pas l'impression que c'est un truc cool, en fait.
Et surtout, en fait, généralement, quand on travaille dans le milieu artistique, c'est pour l'art, c'est pas pour la notoriété.
J'étais à Will of Green, là, il y a pas longtemps, il y avait Juliette Tressani.
Ah, ma passion, j'adore cette fille.
Qui a pas, bon, alors, qui parlait d'écologie, mais je crois qu'elle disait que la notoriété, c'était pas un truc. Enfin, voilà, c'est cool, tu vois, mais je sais qu'elle habite en communauté, je crois, ou qu'elle habitait en communauté dans un coin perdu et qu'elle était peinarde et que clairement, par exemple, revivre à Paris, c'était un peu plus
complexe. Elle habite à 7 maintenant.
Oui. Maintenant, elle habite à 7, ouais. Du coup, elle habitait dans une communauté avec des gens super sympas.
Ah, tellement cool.
Et voilà, donc c'est pas forcément des gens qui cherchent à être dans la lumière H36, ils font leur métier parce qu'ils aiment ça. Et même si, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je pense que forcément, comme tout le monde, t'as envie d'être connue.
Mais parce que t'as envie de ressembler à tes stars, voilà. C'est plus ça.
Et puis après, tu te rappelles que, bon, bah, Selena Gomez et Jenna Lee, c'était bien drôle 5 minutes, mais...
Oui, non, mais... Enfin, oui. En vrai, je pense que c'est beaucoup d'inconvénients au quotidien. Ouais. Une petite notoriété, c'est cool, parce que tu te fais juste reconnaître dans la rue et les gens te suivent. Enfin, te suivent pas dans la rue, te suivent sur les réseaux. Ne suivez pas les gens dans la rue, s'il vous plaît.
C'est mal.
Vraiment, c'est flippant. Ne faites pas flipper les gens, c'est pas agréable. Ça ne sert à rien. On se sent déjà assez en insécurité comme ça.
Mais c'est ce que, même tu vois, l'autre jour j'en parlais avec un ami qui me disait ouais t'aimerais bien avoir la notoriété, enfin un peu de notoriété, c'était toujours le même truc, tu vois, genre oui tu peux pas, c'était le genre de discours où je disais non, ça m'intéresse pas vraiment, ça veut pas dire un stop définitif, tu vois, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce que je fais. Et il m'avait dit un truc, mais si, ça, enfin forcément, si tu fais ce métier, c'est que ça te plaît et tout. Et en fait, je crois que ma notoriété personnelle, j'en ai un peu rien à foutre, mais ce que mes projets ou ce que je crée soit connu.
Ah oui, ah c'est exactement ça, en fait.
Voilà.
Mais je crois que c'est exactement ça. C'est le fait que artistiquement, il y a une notoriété pour que ça fonctionne et que ça veuille dire que du coup, bah les gens aiment ce que tu fais, mais que la notoriété personnelle de l'intimité du quotidien, nope.
Oui, c'est-à-dire que les gens aiment mon travail, mais pas forcément ma personne, parce que de toute façon, enfin, tu te vas vite te rendre compte que je suis désagréable.
C'est faux. Mais pour revenir à la phrase, enfin, à ce qu'Axel t'a dit, moi, quand tu me l'as redit ce matin, ça me brise le cœur, en fait, de me dire, parce qu'en fait, je pense aussi qu'il y a un peu ce truc, vu que c'est un spectacle où vraiment on est sur de la performance qui est presque expérimentale, c'est-à-dire qu'on a une musique que moi j'ai adorée, on en parlera après plus en détail, mais on a un travail sonore hyper qualitatif et très technique, mais qui n'est pas de la musique qu'on pourrait qualifier de mainstream, donc on écoute. C'est très expérimental, mais donc c'est un vrai choix. Et pareil, au niveau de la danse, c'est une danse qui parle vraiment des émotions ressenties dans le corps, donc c'est pas ce que des gens qui n'ont pas l'habitude de voir de la danse pensent, dès qu'ils pensent danse, ou ils pensent soit salsa, soit classique, soit cabaret, globalement, pour les gens qui ne connaissent pas le milieu de la danse. Dites-moi si je me trompe, frappez-moi.
Non, on ne frappe pas les gens.
Mais en tout cas, j'ai cette impression-là, c'est le ressenti que j'en ai. Et donc, en fait, là, on était vraiment dans des trucs qui paraissent expérimentaux et qui ne sont pas, je sais pas comment dire, qui paraissent hyper perchés, en fait.
Oui, Mais moi, quand je suis rentrée, je me suis dit, oh, bah, c'est, enfin.
Voilà. Ah oui, bon, moi, j'ai pas trouvé ça perché du tout. Voilà. Enfin, pour moi, c'est la base de l'art. C'est d'essayer des trucs et d'expérimenter. Donc,
Un des trucs les moins perchés que j'ai vu.
Oui, c'est clair. Hein, c'est... Carrément.
Mais bon.
Mais c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a cette différence entre l'artistique mainstream qui, le but n'est pas spécialement d'expérimenter. Le but est plutôt de conforter le spectateur dans quelque chose qu'il va forcément apprécier. C'est pas du tout une critique, hein, c'est vraiment un constat. Je ne critique pas du tout le fait de faire quelque chose pour le spectateur. Je pense que c'est important aussi. Mais là, on n'était pas dans le faire plaisir au spectateur, on était dans le bah, écoutez, on a un truc à vous raconter, et nous, on le raconte comme ça.
C'est drôle de dire écoutez, on a un truc à vous raconter, et le spectacle s'appelle Je vous
écoute. Je vous écoute, oh là là !
Bah, d'ailleurs, on peut en parler un petit peu de ça. Le spectacle s'appelle Je vous écoute, et au début, enfin au début, après le rite chamanique, comme dirait certains, ils viennent placer ces enceintes en face du public.
Oui.
Je trouve ça giga intéressant.
C'est très bien que tu lances là-dessus, parce que, justement, moi, le son dans ce spectacle, c'est ce qui m'a... Bon, tout, hein, tout, j'ai adoré tout. Au niveau sonore, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc on a 6, 7 ou 8 enceintes devant nous, on ne sait plus. Plus deux grosses qui sont cachées, qui sont sorties vers la fin du spectacle. Et alors, je pense qu'il est important de préciser quelque chose avant ça, c'est que toi comme moi, nous sommes atteintes et dotées de ce léger handicap, parfois avantage, souvent très relou, à savoir... l'hyperacousie, pour contextualiser très rapidement, qui est le fait d'entendre des fréquences plus graves et plus aiguës que la moyenne globale des gens. Ce qui fait que, quand il y a un son très fort, ça peut être très douloureux physiquement au niveau des oreilles. Enfin, ce qui est très fort pour nous n'est pas forcément très fort pour
la globalité. On entend beaucoup plus fort des trucs qui le sont déjà.
Voilà. Et que quand il y a plus... Alors, je sais pas si toi c'est exactement pareil, mais en tout cas, moi, ma manière de le vivre, c'est que quand il y a beaucoup, beaucoup de bruits différents, admettons, il y a deux personnes qui me parlent en même temps, je vais pas être capable de distinguer les deux voix séparément. Donc, j'entends juste les deux qui se mélangent et qui se chevauchent. Et du coup, je suis là... bug. Voilà. Voilà pourquoi la scolarité est très compliquée pour nous quand il y a du brouhaha qui discute et des élèves qui n'en ont rien à battre du cours. Alors oui, bah du coup, à propos de l'hyperacousie, j'en parle très rapidement, c'est une grosse digression, mais je suis allée voir Boîte Noire l'autre soir avec des collègues des cours flancs, Pepsan Elsa, qui parle de quelqu'un qui a une forme d'autisme et qui a clairement une hyperacousie et qui en a fait sa force pour son travail, mais c'est extrêmement bien. En fait, si vous avez vu le film Boîte Noire ou que vous allez le voir, la manière dont vous allez percevoir le son, c'est comme ça que des gens qui ont une hyperacousie perçoivent le son quotidiennement. Ouais. Et c'est épuisant, hein, c'est vraiment épuisant.
Pour avoir une autre digression, enfin moi pour le coup j'ai des acouphènes aussi à côté de ça.
Oui, oui.
Ce qui est un peu relou dans la vie, enfin, elles sont légères, mais.
Ça fait partie du bouquet final, hein, finalement. c'est un abonnement complet.
Ça peut paraître super bête, mais par exemple, je sais que Mélissa, c'était arrivé aussi quand on était en train de travailler ensemble, mais par exemple, quand il y a un petit son dans les enceintes, mais tout petit, tout mini, il y a plein de gens qui ne l'entendent pas, et on est vraiment genre deux à faire. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc qui dérange.
Vraiment, c'est très angoissant. Vraiment, il faut que ce bruit très aigu qui sort d'une enceinte s'arrête. Et genre, les gens continuent sur le non, mais ça va. Non, vraiment, ce n'est pas possible. Donc, ce qui a fait que pendant ce spectacle, et je pense que vraiment ils ont voulu travailler là-dessus, il y a des sons différents qui sortent de chaque enceinte. Ce qui fait que dès qu'ils déplacent une enceinte, les sons viennent vraiment d'endroits différents de la scène. Alors moi j'ai juste regretté une chose pendant ce spectacle. J'aurais tellement aimé que ce soit en quadrifrontal. Et alors ce qu'on appelle quadrifrontal, c'est-à-dire l'habitude des spectacles, c'est de les voir en frontal, donc vous avez la scène et vous êtes face à la scène. Mais on peut aussi faire du bifrontal, c'est-à-dire que le public est de chaque côté de la scène, ou du trifrontal, donc de trois côtés, ou quadrifrontal, tout autour de la scène. Et j'aurais tellement aimé qu'ils fassent du quadrifrontal, même si c'est pas faisable dans tous les théâtres, mais bref, c'est une autre question technique, peu importe, d'un point de vue artistique. J'aurais aimé qu'ils fassent du quadrifrontal, et qu'ils jouent encore plus que ce qu'ils faisaient déjà là, avec les dispositions des enceintes et des bruits qu'on entend. En fait, vous voyez cette impression quand vous écoutez une musique dans des écouteurs ou dans un casque et que vous avez un son qui a été travaillé. Ça arrive, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé. Alors si vous aimez Pink Floyd le fait énormément. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce groupe, c'est que vraiment, il joue avec le mono et le stéréo en permanence.
C'est ça, je viens de comprendre.
Voilà.
Parce que j'écoutais Pink Floyd en arrivant sur
ça. Donc en fait, ça veut dire que quand vous avez un son, généralement au niveau du mastering, quand on fait de la musique, on a tendance à mettre les sons soit au milieu, c'est-à-dire en stéréo, c'est-à-dire que ça va autant à droite qu'à gauche au niveau du son, au niveau de vos écouteurs, mais on peut aussi le mettre que sur un des deux côtés, et généralement, une chose qui est, en tout cas, qui est énormément fait dans les productions actuelles, c'est de faire une piste à gauche et une piste à droite, et de les modifier un tout petit peu, que ce soit pas exactement les mêmes, mais en fait, quand vous l'entendez, vous ressentez pas le fait que ça vient de chaque côté, juste ça vient amplifier la voix et donner quelque chose de, ou l'instrument, et donner quelque chose de plus rond et de plus travaillé, tout simplement. Mm-hmm. Mais il y a des groupes, donc comme Pink Floyd, ou comme plein d'autres musiques.
Queen
le fait aussi quelquefois. En fait, c'est tout, c'est dans ces années-là, ils ont
fait des tests.
Voilà, ils ont commencé à expérimenter la musique et donc ils se sont amusés à dire, ah, regardez, là, on va faire commencer ce riff de guitare à gauche et puis on va le faire finir à droite.
Ouais.
Et du coup, vous avez cette impression que la musique, elle vous traverse le cerveau et qu'elle va d'une oreille à l'autre.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant ce spectacle, en fait, où à un moment, donc nous, on était assez centrés quand même. Hein.
Ouais.
Et donc, vraiment, en étant centrés, moi, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'avais une enceinte à gauche, une enceinte à droite, qui faisaient toutes les deux un bruit différent. Mmh. Et j'avais un bruit dans chaque oreille. J'étais là, waouh, c'est
ça,
fou.
Ça se prend la tête de très vite, en fait. Enfin, pas dans le mauvais sens, mais c'est super intéressant.
Ouais.
Mais en fait, le truc qui me perturbait, c'est que c'est des petites enceintes.
Oui.
Et qu'elles font, déjà, j'ai envie de connaître la marque.
Elles sont très bien.
Elles sont vraiment très bien. Et puis oui, la danseuse, par exemple, a beaucoup joué avec ça. En fait, là, c'est là que les deux mondes se relient. C'est-à-dire qu'ils ont... le son peut être écrasé par le corps.
Mais oui,
fait.
Oui, exactement.
Et c'est vraiment... Ils tentaient, il y avait une expérience de travail sur qu'est-ce que je peux effacer, comment est-ce que ça se gère. Enfin, à un moment, la danseuse donc, prend une enceinte tout autant avec autant de douceur que notre cher Julien. Et elle la met face au sol. Donc déjà, le son n'est déjà à ce moment-là plus du tout le même. Puis, elle y met tout son poids... Et il n'y a plus de son.
Et du coup, on n'entend plus le son. Alors, je pense que c'est un peu triché dans le sens où je pense qu'en même temps, lui, il baisse le son de cette enceinte-là au niveau de sa gestion du son sur le côté. Bah, c'est comme quand vous écoutez un son qui sort de votre téléphone et que vous mettez la bouche et que vous faites waouh 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 pendant que le son sort. C'est exactement le même principe, en fait.
C'est
vraiment la caisse de résonance. Ouais. Et il y a un moment où ils font ça aussi, où les deux prennent une enceinte et ils la mettent contre eux. Alors moi, ce moment, je le trouve très très beau, où ils mettent vraiment le son contre eux, et ils l'appuient, et du coup, ça prend une nouvelle résonance, parce que tu changes le résonateur par lequel le son sort, tout simplement.
Je sais pas si tu as remarqué, mais l'enceinte de notre cher Julien, quand il fait ça, il la met près de son cœur, elle la met près de son ventre,
oui.
Et quand il la met près de son cœur, donc je pense que clairement c'est un ajout audio, etc., mais ça, t'as les battements.
Ah, je me souviens pas.
Il y avait vraiment un bruit de battement en plus. Mm. Qui est tout d'un coup venu s'installer et qui, bon, part bah, quand il l'enlève. Et tu te dis, waouh, ça a capté les battements. Alors que, bon, bah, en réalité,
oui.
Ça me paraît impossible.
Non, voilà, parce qu'il n'y a pas de micro, ce sont des enceintes. Donc, il n'y a pas de micro.
Ça ne marche pas. mais je trouvais ça très drôle à faire. Enfin, ça me paraissait...
Mais oui, mais ça prouve, encore une fois, que c'est hyper réfléchi. Ouais. Ils ont beaucoup travaillé sur ce son-là et comment jouer autant avec le son existant qu'en rajoutant des sons en fonction de leurs gestes. Et c'est hyper bien lié avec le jeu du corps, etc.
D'ailleurs, au début, pour cette histoire de son, enfin pour l'avis d'Axel, qui était aussi un petit peu le mien au début, c'était vraiment que c'était un son bizarre, tu vois. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que ça crée une musique et qu'au début, c'est pas dérangeant, mais pour certaines personnes, ça peut l'être, parce que c'est un peu des grésillements, des trucs, des machins. Et au fur et à mesure, tu t'habitues et ça fait vraiment une musique dans ta tête.
Oui.
Il n'y a pas de musique à proprement parler.
Oui, c'est un espèce de bruit blanc qui devient musical, en fait. Et puis, en plus, vu qu'elle commence à bouger dessus, on entend encore plus la musique. Vu
que... Elle ajoute un truc très artistique à ça, qui l'était déjà avant, mais elle rajoute une poésie, je dirais.
Oui, carrément.
À tout ça.
En fait, il y a très peu de voix. Du coup, au niveau sonore, il y a juste un moment où elle parle en coréen. C'est très beau, avec une petite voix. Elle parle dans un micro et puis elle s'avance. Et on ne sait pas ce qu'elle dit, mais c'est très mignon comme moment. Et la fin où lui, il chante du coup la chanson qu'on a pu entendre tout à l'heure avec « Je te laisse descendre ». Et c'est la seule fois où on entend des voix. Sinon, c'est toujours seulement des notes, des sons, des bruits et qui emmènent vraiment loin. Et vraiment, ce travail sur la provenance des sons est très fort, je trouve.
Ouais, carrément. Ils ont beaucoup travaillé aussi sur le fait que le son à une certaine fréquence associé à un objet peut créer, donc même pas associé à un objet forcément, mais même quand ils le mettent contre eux, ça crée des vibrations qui peuvent faire bouger des choses.
Oh oui, parlons-en. Meilleur moment, mais meilleur moment, mon Dieu.
Qui va se relier après avec la lumière.
Donc en fait, il y a ce moment où les enceintes sont toujours disposées sur le sol et ils disposent devant ces enceintes des petits miroirs rectangulaires verticaux, appuyés contre les enceintes. Donc il n'y a plus rien d'autre sur scène. Eux, ils sont sur les côtés, ils sont retournés dans leur petit coin, sur les côtés de la scène. Et donc il y a des vibrations très graves qui sortent des enceintes, qu'on entend à peine en fait, parce qu'elles sont... Alors à mon avis, déjà, les fréquences sont tellement graves qu'on les entend assez mal. Et en plus de ça, les miroirs sont devant, donc ils bloquent le son. Et ces fréquences graves vont faire que les enceintes, qui sont en soi assez petites et légères, vont reculer petit à petit, parce que bah, les fréquences graves font reculer les objets, tout simplement. Hein. Quand l'enceinte projette la fréquence grave en avant, et bien du coup, ça la fait reculer d'un point de vue de l'attraction terrestre, d'un point de vue que voilà, il y a des choses qui se repoussent et qui s'attirent. Je n'étais pas bonne en physique chimie, d'accord. Merde.
Mais eux sûrement le sont.
Mais eux doivent l'être, ou alors ils ont fait une très bonne observation. Et donc, au fur et à mesure que ces enceintes reculent, le miroir ne bouge pas, et donc il finit par glisser sur le dessus de l'enceinte et par finir par tomber devant l'enceinte. Ce qui produit, et là Elsa, je vais te laisser continuer, la plus belle chose qui se passe, et ce pourquoi on s'est dit toute la soirée, pourquoi on n'a jamais pensé à ça, c'est la meilleure idée, scéniquement, c'est magnifique. Je te laisse enchaîner.
Quand le miroir tombe, la lumière change, mais pas vraiment... Enfin, comment on peut expliquer ça?
Bah, en fait, la lumière se reflète dans le miroir, ce qui fait que le miroir se penche, plus le reflet de la lumière change.
Et ils nous viennent dessus, surtout. Enfin, la lumière...
Ça crée des faisceaux lumineux, en fait.
Ça crée des faisceaux lumineux qui viennent vers nous, donc au fur et à mesure. Et puis bon, après, quand le miroir tombe, la lumière est clairement... Enfin, ça amplifie aussi, d'une certaine manière, la lumière qu'il y avait déjà autour. Enfin, comment expliquer ça? Je pense, très honnêtement, qu'il y a un projecteur au-dessus de chaque enceinte.
Oui, alors en fait, ce qui est assez étonnant en plus à ce moment-là, c'est que regarder les miroirs en soi est pas hyper utile, même si c'est très beau, c'est qu'on voit surtout les faisceaux lumineux, parce qu'il y a toujours beaucoup de fumée dans la pièce.
Dans mon sens, il sert à ça aussi, la fumée te permet de voir beaucoup mieux les faisceaux lumineux, et c'est vraiment, comme tu l'as dit, les miroirs, c'est pas qu'on s'en fout un peu, c'est qu'ils sont plus objets de cette création de lumière que eux-mêmes intéressants, même si bon, ils ont aussi une utilité par rapport au public, je pense, qui est plus bas, plus vers la scène, parce qu'ils se voient, eux, dedans.
Oui, en plus, oui, tout à fait. Nous, on est en hauteur, donc on ne se voyait pas dans les miroirs, alors que le public du bas doit se voir.
Donc il y a peut-être quelque chose en plus pour eux, mais après, ça nous a éblouis aussi, mais le fait que toutes ces vibrations, enfin fréquences, comme tu le dis, tapent sur le miroir, fait que le miroir, au fur et à mesure, tombe, et donc ils tombent chacun à un certain rythme. J'ai vu que donc c'était lui qui gérait les vibrations de chaque enceinte, donc il les faisait tomber les miroirs les uns après les autres, et du coup ça créait, grâce à l'encens aussi et à la fumée, la visibilité de faisceaux lumineux qu'on voit bouger, soit pour certaines enceintes c'était deux ensemble, pour d'autres c'était une de chacune de son côté, mais elles avaient à peu près toutes cette même trajectoire. Le miroir tombe, et au fur et à mesure ce faisceau se dirige de plus en plus vers le haut. Enfin, ça remonte, ça fait un peu comme...
Pour moi, c'était comme le truc de la 20th Century Fox.
Oui, au début, voilà.
Pom, pom. Et il y a les lumières dans tous les sens, et ben, pour moi, c'était ça.
C'était ça, sauf que c'était très droit, mais ça restait quand même avec toute l'ambiance qu'il y avait derrière et tout, ça faisait vraiment quelque chose de super beau. Mais les miroirs, ça coûte 15 balles chez Casto, et franchement, peinard. C'est une très bonne idée.
C'est très très beau. Et il joue beaucoup aussi avec ses miroirs au niveau de la danse, etc. Après,
c'est très intéressant. Il y a un gros travail dessus. En gros, la lumière aussi, dans ce spectacle, elle est giga importante au travers des objets qui sont utilisés. Bon, après, elle est très précise aussi. C'est sûr que eux, ils connaissent leur plateau par cœur, parce qu'il n'y a pas de marque au sol, il n'y a rien. Ils placent leurs enceintes pile poil au bon endroit, pile poil sous les lumières. Bon, je pense qu'ils regardent un peu en haut aussi.
Je pense qu'il y a des petites marques.
Il y a des petites marques, vraiment légères. Non, très petites, mais il sait où mettre quoi, et tout est extrêmement bien placé pour que chaque projecteur ait son enceinte, etc. La lumière en soi, en fait, la lumière sans l'encens, sans la fumée de l'encens, n'aurait pas grand intérêt. Enfin, elle est belle, mais
on la verrait moins.
Et là, ça crée quelque chose de vraiment intéressant, mais ils n'ont pas que éclairé pour éclairer. Ils ont joué avec le son, comme ils ont joué avec la lumière. Il y a un peu une danse de lumière aussi, hein, j'ai envie de te dire. Au moment notamment où ces miroirs tombent, il y a quelque chose, il y a la musique derrière, et ils tombent pas tous à la même fréquence, et je trouve ça très beau comme moment, t'as l'impression qu'ils sont animés. Et sinon, oui, il y avait des petits changements d'ambiance aussi, ils ont beaucoup travaillé sur l'ombre aussi pour à certains moments, quand ils sont à l'arrière, enfin eux ils jouent en arrière-scène, à un moment il y a un très beau travail d'ombre, et on passe avec beaucoup de douceur, d'ambiance plutôt chaude à une ambiance plutôt froide, mais c'est toujours fait avec beaucoup de douceur, et t'es pas perturbé par un univers, l'autre, enfin voilà. Lui et elle, plus elle d'ailleurs, parce qu'elle vient jouer au piano à un moment. Pendant qu'ils chantent, elle vient jouer au piano, donc ils inversent un peu leur rôle. D'ailleurs, ils inversent tellement leur rôle qu'ils vont chacun du côté inverse du plateau.
Exactement.
Lui, il se met à sa place à elle, elle, elle se met à sa place à lui. On parle pas trop de l'éclairage des deux côtés de la scène, mais c'est un peu tamisé.
Ah oui, c'est plus que tamisé, voilà. C'est en fait, c'est pas éclairé, quoi. C'est éclairé par le reste du plateau. Voilà.
On les voit un peu. Et puis si, quand elle joue au piano, elle est toute dans le rouge.
Ah oui, je me souviens.
Elle est éclairée d'un gros projecteur rouge. Et ils ont aussi, ça on n'en a pas parlé, mais des projecteurs de chaque coin de la scène. Donc il y a la scène est carrée. Et de chaque côté, il y a un, comme, il y a comme un, il y a, comment on peut appeler ça? Des gros projecteurs, mais qui du coup sont très droits. Je sais pas comment dire. Donc en gros,
des poursuites? Pourquoi je me souviens pas de ça?
En gros, tu vois, ça, c'est une scène.
Oui.
Une clé, il y en a un là, un là, un là et un là.
Mais en l'air?
Non, ils sont sur pied. Et ils sont assez éloignés, enfin, ils sont vraiment sur le côté, quoi.
Oui, ils ont genre des PC 500 en latéraux, voilà, quoi.
Des PC 500 latéraux, merci. C'est ça. C'était le terme que je cherchais tout à l'heure, des PC 500. J'allais dire des, mais oui, c'est ça, des grosses lumières.
Ouais, des grosses lumières.
Des PC 500, mais qui du coup leur servent à jouer aussi, à éclairer leur visage. Quand ils sont plus. Ils déménagent ou
quoi? Mais arrêtez avec les travaux!
Et du coup, ça éclaire beaucoup leur visage, et même des fois dans les miroirs, quand elles se baladent avec, enfin, quand ils les ramassent, oui. Tout, c'est assez important. Enfin, c'est vrai que leur visage, des fois, on a l'impression qu'on les voit pas trop, mais là, pour le coup, ça a créé en plus des diagonales. Il y a un beau travail de ligne aussi, enfin, bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà. Et voilà quoi, en gros, la lumière, elle est giga importante, elle rajoute encore de la poésie à tout ça. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé tout ce travail lumineux qui concorde avec tout ça et qui fait qu'aussi des fois, en soi la scène elle est quand même vachement tamisée hein, dans les grandes lignes et on parlera après des bougies si on veut.
Bah je, qui si, sont, si tu veux en parler maintenant, tu peux.
Qui en fait t'as l'impression de clore un rite chamanique.
Ah je, oui, les bougies voilà. De la fin.
Les bougies de la fin, alors j'ai un giga problème comme je l'ai fait avec les danseurs de chez Dimitris Papaioannou. Je compte beaucoup. Mmh. Et j'ai compté le nombre d'enceintes, j'ai compté le nombre de miroirs, et au début du spectacle, j'avais compté le nombre de bougies qu'elle avait devant elle. Et je me suis dit, forcément, ça va possiblement avoir un lien. Parce que je me suis dit, elles sont pas là pour rien. Enfin, bref, j'avais peur que le plateau flambe aussi à un moment. Hein, même. et du coup, je me dis, bon, bah, les miroirs sont donc au sol maintenant, parce qu'une fois qu'ils ont vibré, ils sont au sol. Et je crois qu'ils enlèvent les enceintes, si je me souviens bien.
Il dégage non, les enceintes. Ah, les sur... ah non, si, il les pose sur les miroirs, pas sur les enceintes, c'est ça.
Ouais, donc, il les pose sur les miroirs.
Il dégage ah, les mais non, elles sont en ligne devant.
Oui, ils les mettent, pardon, ils les mettent en... Ils en font tellement de trucs, c'est simple. Ils les mettent en ligne devant, donc il y a quand même un son beaucoup plus clair, du coup, maintenant qu'il se définit, même si...
Bah, disons que... Alors, ce moment-là, je sais pourquoi j'ai souri, moi, au niveau sonore, je ne sais plus. Je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie, je ne sais plus pourquoi.
Chaque enceinte avait un bruit différent.
Oui, oui, chaque enceinte avait un bruit différent, mais ils faisaient quoi, ces bruits?
C'était plein de petits bruits étranges, si je me souviens bien. Mais qui avaient créé une espèce de mélodie, je ne saurais plus te dire très clairement, mais en gros, ça avait créé une espèce de... C'était... Ça ne collait pas vraiment avec l'ambiance qu'il y avait derrière, quoi. C'est qu'eux, ils étaient en train d'installer des bougies et il y avait un bruit, mais qui s'arrêtait.
Est-ce que c'était pas genre, ouais, ils avaient tous un bruit répétitif et du coup, oui. La globalité formait une mélodie?
C'est ça. Mm. C'est exactement ça. Il y avait un petit bruit répétitif par enceinte et à chaque fois qu'il en ramenait une, on comprenait que ça créait un son.
C'est ça.
Et au fur et à mesure, bah, ce son digresse. Je sais pas, non, pas digresse.
Fade out.
régresse, pardon. Régresse et laisse place au silence, mais pendant qu'ils font ça, enfin pendant que les enceintes sont mises en place, elle va placer des bougies, lui aussi. Et du coup, les bougies sont posées sur nos beaux miroirs et ça crée aussi un autre réflecteur de lumière un peu différent, beaucoup plus intime, comme il y a pu avoir au début du spectacle où elle était juste éclairée par ses bougies, lui vraiment éclairé par très peu de lumière et où nous on avait. Les petites, on n'en parle pas, mais des toutes petites cendres allumées au bout des trucs d'encens.
Ah, et après, ils le font en lumière quand ils viennent chercher les encens. Hein. Il y a de la lumière dans le public.
Mais je veux dire, quand t'arrives, il n'y a que des petits trucs qui sont allumés. Oui. Et voilà. Mais voilà, donc un très beau travail de lumière, je trouve vraiment poétique et qui accompagne tout le reste.
Ben oui.
Voilà. Peut-être qu'on peut parler d'un moment, ils ont une danse commune.
Avec le fil. Oui.
Qu'il y a tellement de métaphores qui peuvent être faites entre la danse commune, le fil qui les relie, la manière différente dont ils le tiennent. Lui, il le tient plus fermement, elle le tient vraiment de manière un petit peu plus lâche. Il y a tout un truc qui se crée où, tu vois, il y a deux univers différents, mais qui, là, du coup, sont reliés par un truc.
En fait...
C'est la seule fois où ils sont très proches, quoi.
Eh ben, je trouve pas.
Ah ouais?
Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Physiquement.
Physiquement, oui.
Mais pour moi, c'est le seul moment aussi où ils ont beau être proches physiquement, c'est pas en lien ce qu'ils font.
Oui.
Ça marche pas ensemble.
Non.
Je dis pas ce qu'ils font à ce moment-là, ça marche pas. Hein. C'est pas ce que je veux dire.
Non,
mais
oui.
Juste leur manière de bouger ensemble ne fonctionne pas. Parce qu'ils sont en train de faire la même chose, mais pas exactement pareil. Et du coup, ça se bloque, en fait. Ils sont bloqués par le fil, etc. Et c'est vraiment le seul moment où ils sont... C'est intéressant aussi en soi, hein, mais... C'est le seul moment où ils sont proches physiquement et où ça marche pas. Et tout le reste du temps, ils sont chacun dans leur monde, mais ils sont pas proches physiquement, mais ils sont tellement proches dans la complémentarité que voilà. Alors du coup, si on repart sur cette technologie, même si moi je la trouve très dommage...
Moi aussi, mais...
Si on repart là-dessus, oui, et peut-être que ce qu'ils veulent dire à ce moment-là, c'est que le lien, il se fait pas forcément par un truc virtuel.
Ouais.
Le lien, il se fait pour de vrai par un truc que tu fais ensemble en soi,
oui.
Tu vois, enfin... Ouais. Mais juste chacun dans son monde. Et de pas... En tout cas, pour moi, ce truc-là, c'est vraiment... C'est pour ça que vraiment, les technologies, j'arrive pas à m'y raccorder, mais pour moi, c'est vraiment... Tu te complètes et ça fonctionne quand tu restes toi-même avec quelqu'un d'autre qui reste lui-même et que les deux se mélangent et que ça fait un truc de ouf. Alors que quand tu restes plus toi-même et que t'essayes trop de devenir l'autre et de faire comme l'autre, eh ben, ça marche pas, en fait.
Ouais, ouais. Bah, c'est, peut-être que c'est ça aussi dont ils ont voulu parler à ce moment de fil, parce que t'as l'impression, dans leur fil, qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux.
Ah, mais complètement, oui, complètement. Ouais.
Ils sont très proches l'un de l'autre, mais après lui, bon, il est pas danseur, elle est pas musicienne, bon, elle est un peu musicienne quand même, mais ils ont pas forcément la même manière de bouger et ça se sent.
Bah oui, globalement, enfin, moi j'ai kiffé.
Ouais, bah ouais, non, vraiment. Et je crois qu'Axel.
À part les sièges.
Aussi. Oui, voilà. Moi j'ai kiffé aussi, je crois qu'Axel a kiffé aussi, qu'on n'a pas forcément la même manière d'avoir compris le spectacle, mais c'est pas très grave. Même c'est plutôt pas mal.
Bah tant mieux, en fait, ouais. Pour moi c'est le but d'un spectacle, c'est de pas nécessairement. Que tout le monde comprenne la même chose. Mais du coup, ça fait écho à ce que toi, t'as ton vécu et ce que toi, tu ressens. Eh bien, voilà. Globalement, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, allez voir ce spectacle. Vraiment, allez le voir. Il était vraiment très, très bien.
Oui.
Et si vous ne voyez pas souvent de spectacle et que ça vous fait peur, tout ce qu'on vous a dit, parce que ça vous semble très expérimental, bah, profitez-en pour y aller quand même et vous faire un avis. Même si c'est un avis négatif, c'est cool. C'est bien de savoir ce qu'on n'aime pas aussi, autant que ce qu'on aime.
C'est en y allant que tu découvres ce que t'aimes et ce que t'aimes pas.
Ouais, et que t'essayes de comprendre pourquoi t'as aimé et pourquoi t'as pas aimé, et c'est hyper important. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Elsa ?
Sur nos réseaux sociaux personnels, c'est-à-dire Instagram, Twitter.
Évidemment, vous aurez les liens en barre d'infos, mais est-ce que tu peux nous repréciser ton Insta, ton Twitter ?
Mon Insta, c'est Elsa_SKS_CSL, Elsa Jukis-Kassel, et mon Twitter, c'est Elsa_Patati.
Tout à fait. De mon côté, sur Instagram, c'est Melissa_Brazet, B-R-A-I-Z-E-T. Et pour Twitter, c'est mbrazet, ça s'écrit de la même manière. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube, je pense.
Oui.
Pour ma part, c'est Melissa Brazet. Vous pourrez également trouver le lien en barre d'infos pour Elsa.
Mon YouTube, c'est elsa.s.c.
N'hésitez pas à communiquer avec nous sur les réseaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à... le partager avec vos amis, à en parler autour de vous, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, de préférence 5, pour le référencement.
4,5, c'est vraiment, vous voulez vraiment nous faire chier. Avec un bof.
C'était pas ouf. Moi, j'ai un podcast dont on a parlé vite fait tout à l'heure qui s'appelle Donne ta patte, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcasts. Sur ce, on vous souhaite une belle journée, on vous dit au revoir et à la prochaine fois.
Des bisous partout.